Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde l'alimentation sous toutes ses formes, qui en décrypte tous les enjeux. Avec nous aujourd'hui, Matteo Caranta, qui s'occupera à 12h15 de la Madeleine. Il est debout à l'espace Carda, on peut le voir, j'espère, pour celles et ceux qui regardent sur la chaîne YouTube du Théâtre de la Ville cette émission. Bonjour Matteo.
Bonjour Caroline.
Qui donc avez-vous croisé, rencontré peut-être cette semaine pour la Madeleine ?
J'ai eu le plaisir de rencontrer la poétesse, grande traductrice, amoureuse des mots de la cuisine, Ryoko Sekiguchi.
Ça tombe bien parce que je pense que ça plaira à notre invité du jour. Nous sommes très heureux de recevoir un jeune chef ultra prometteur. D'ailleurs, on ne parle que de lui dans le Landerneau de la cuisine depuis son passage à Top Chef en 2020, où il a été remarqué, où il a gagné un fort capital sympathie jusqu'à la distinction en ce tout début d'année 2021 par un classement gastronomique international fameux qu'il a nommé parmi les 5 chefs les plus prometteurs de la planète, en passant par la classification de jeunes talents 2020 par le Goemio. Il était donc temps pour nous de le recevoir, alors même que son restaurant Mosuke, ouvert le 1er septembre 2020, a dû refermer ses portes 2 mois plus tard. C'est vraiment un bon môme, dit de lui le grand chef Thierry Marx, avec qui il a travaillé. Il possède une force de travail énorme, un vrai style de cuisine, et il a tout le temps le sourire. C'est vrai d'ailleurs, je vois votre sourire. Maurice Sacco, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce midi. Seulement le jour où le très sélect classement mondial, la liste, c'était jeudi dernier, vous a élu parmi les meilleurs talents du moment, le Premier ministre Jean Castex annonçait un couvre-feu généralisé à 18h qui entrait en vigueur hier soir. Alors qu'est-ce qui prend le dessus malgré tout aujourd'hui pour vous, Maurice Sacco ? Le sourire que vous avez toujours aux lèvres ou la tristesse de devoir vous adapter une fois de plus à cette situation exceptionnelle ?
Le sourire.
Ah, donc.
On garde le sourire. On va dire qu'en ce moment, l'ascenseur émotionnel est un peu devenu la norme. Donc, ces annonces, on fait avec. Mais des annonces comme celle de la liste, par contre, ça, c'est assez exceptionnel pour être célébré. Donc, on garde le sourire.
Qu'est-ce que ça représente pour vous, une annonce comme celle de la liste? C'est pas trop de pression, quand même, quand on est un jeune chef comme vous, qui monte?
Non, justement, c'est
ça donne des ailes.
Ça donne des ailes et c'est une validation supplémentaire de mon travail et du travail de toute l'équipe. Donc c'est plus une motivation supplémentaire que plutôt qu'une pression.
La liste, il faut peut-être le dire, hein, c'est une sorte de sélection gastronomique parmi les meilleurs du monde, issue de la compilation de milliers de publications presse, de centaines de guides, de millions d'avis en ligne. Hein, c'est une sorte de compilation qui donne ce résultat. Et effectivement, 5 chefs, dont vous, ont été élu nouveau talent de la planète, ce qui n'est donc pas rien. Vous disiez que ça représente une sorte de confirmation supplémentaire pour vous. Est-ce qu'on a encore besoin aujourd'hui en 2021, effectivement, de la confirmation ou de la confortation qu'on est bon par des chefs, par des pairs, disons ?
Bien sûr, c'est une confirmation qui est tout aussi importante que celle des clients, parce que nos clients, on n'oublie pas qu'on travaille pour eux. Mais tous ces guides, toutes ces listes qui peuvent tomber au fur et à mesure notre carrière, c'est un peu la reconnaissance des pairs et du métier. Et dans la cuisine encore plus, c'est très important, quoi. Donc on est un peu comme une petite confrérie, et puis ça permet de montrer à tout le monde qu'on est là et qu'on bosse dans la bonne direction.
Voilà, vous avez le sourire, j'ai pas envie de vous le faire perdre, mais malgré tout, qu'est-ce que ça fait, Maurice Sacco, de devoir refermer un restaurant 2 mois seulement après l'avoir ouvert, hein, c'était en septembre dernier, et alors que vous étiez complet tous les soirs?
On va dire que c'est un peu
bizarre.
Embêtant et ça fait très bizarre parce que on était vraiment sur notre lancée du départ, on va dire. Et 2 mois sur la durée de vie d'un restaurant, c'est rien du tout, quoi. Donc on commençait à peine à vraiment lancer la machine, à commencer à se sentir à l'aise, moi dans ma cuisine, mon responsable de salle dans sa salle, et ça nous coupe de notre élan. Donc on va dire qu'à la réouverture, nous, ça va être comme une deuxième ouverture au final. Donc c'est embêtant parce que le cas de réservation était plein, donc on a dû rappeler tous les clients, essayer de déplacer, mais ça commence à devenir un peu gênant. Ça fait quand même la 3e fois qu'on doit les rappeler pour déplacer les réservations, donc les clients jouent le jeu, c'est sympa de leur part, mais je comprends que la situation est pas facile pour eux non plus, et c'est juste Moi, je suis heureux, je suis le plus heureux dans ma cuisine. Et là, actuellement, certes, je cuisine pour une vente à emporter, mais c'est pas vraiment ce qui a été prévu au début, quoi.
Mais quand vous avez ouvert Maurice Acco en septembre, vous ne vous êtes pas dit, je prends un gros risque, parce qu'on sortait, certes, d'une période estivale où on s'est tous dit, parce que le gouvernement aussi nous l'avait dit, en gros, faites un peu ce que vous voulez, hein, attention, mais faites un peu ce que vous voulez. Mais on savait quand même, au fond de nous, qu'on risquait de reprendre un confinement ou un durcissement des conditions sanitaires sur la figure. Donc au moment où vous ouvrez en septembre, quand même, vous prenez un risque, vous le savez.
Oui, ça totalement, on prend un risque, j'en suis conscient. Après, j'attendais pas un reconfinement aussitôt. Et on avait déjà prévu, entre guillemets, notre porte de sortie avec Mosugo, qu'on fait actuellement, qui est une version à emporter. Mais c'était prévu dès l'ouverture du restaurant. En fait, l'entité était déjà créée, toute l'offre était déjà prévue. Et ce qui nous a permis de réagir extrêmement rapidement, on va dire, on n'a pas fermé entre les annonces de couvre-feu et de fermeture des restaurants. Et dès le lendemain, on était prêt en fait. Et ça nous a permis d'être hyper réactifs. Donc, quelque part, c'était embêtant de fermer Mosuke. Mais Mosugo a pris le relais instantanément, quoi.
Parce que vous êtes aussi hyper réactif. Donc, Maurice Acco, on apprend ça. Mais c'est aussi justement un monde qui bouge très vite en ce moment. Beaucoup de chefs, d'ailleurs, ont décidé d'arrêter la haute gastronomie. Nous y consacrerons une émission Les Bonnes Choses prochainement. Les restaurants sont obligés de s'adapter, de se réinventer. Est-ce que, disons, cette façon de voir les choses, d'être en cuisine, dans un restaurant qui est sans doute, en tous les cas, prochainement sera étoilé. Enfin, en tous les cas, on espère pour vous, en tout cas, vous avez envie de le faire. Justement, est-ce que c'est pas un peu daté de voir les choses comme ça? Est-ce que vous n'avez pas envie, justement, d'autre chose? Vous avez même pas 30 ans, de cuisiner autrement. Vous êtes obligé de le faire. Est-ce que ça vous donne pas, du coup, l'élan pour avoir envie de le continuer de cette façon-là?
Il y a deux logiques qui s'affrontent, on va dire. on va dire en Côte d'Ivoire, on a l'habitude d'utiliser une expression qui dit que en même temps est mieux, ce qui veut dire qu'on peut faire deux choses en même temps. Et moi, j'ai envie de dire, on peut révolutionner la cuisine sur la forme, mais garder ce fond qui est la même. Donc, il va y avoir un clivage qui va se faire. Certains vont aller vers une cuisine où ils voudront être totalement libres pour faire aussi bien emporter qu'une cuisine bistronomique que du gastro, et d'autres comme moi qui pensent que je peux continuer à conserver ce cadre gastronomique classique où on fait de la restauration assise avec des clients et qu'on va chercher aussi un peu les guides, tout en révolutionnant sur la forme, en créant une offre gastronomique qui est totalement nouvelle, comme celle que moi je prétends faire entre l'Afrique et le Japon. Donc la nouveauté vient de l'offre culinaire et non du format du restaurant, quoi.
Bien sûr, on en parlera juste après la Madeleine de cette offre culinaire entre l'Afrique, la France et le Japon. Maurice Acco, juste un mot déjà sur votre parcours. Tout petit déjà, vous aviez envie de faire de la cuisine. Est-ce que c'est venu d'où, pour le dire clairement, cette envie de cuisiner? Parce qu'on peut aimer manger, mais pas nécessairement avoir envie de cuisiner ou d'en faire son métier.
Alors non, cette passion n'existait pas chez moi tout petit. J'aimais manger parce que ma mère cuisinait très bien, mais j'avais pas cette ambition de me dire plus tard je serai cuisinier. Non, moi c'est arrivé beaucoup plus tard et c'est en faisant ce métier que j'ai appris à l'aimer. Donc je me suis lancé dans la cuisine vraiment, je vais pas dire par hasard, mais sur un pourquoi pas. Donc au collège où j'ai dû choisir un peu une voie où je devais me professionnaliser, je me suis dit bon, on va tenter la cuisine. J'apprécie le milieu, j'apprécie l'univers de l'hôtellerie et en faisant le métier, j'ai appris à l'aimer petit à petit. L'évidence s'est posée devant mes yeux. Je me suis dit ah ouais, j'adore ce que je fais et je vais continuer.
Vous disiez j'apprécie l'univers, c'est ce que je suis en train de noter là. J'appréciais l'univers de l'hôtellerie. Pas n'importe quelle hôtellerie, vous avez travaillé au Mandarin Oriental, donc avec Thierry Marx, vous avez aussi travaillé au Royal Monceau, au Shangri-La, un certain goût du luxe chez vous, un goût pour les palaces.
Oui, l'hôtellerie, l'hôtellerie de luxe, donc l'univers des palaces, vraiment j'étais attiré par toute cette notion d'excellence que ça pouvait dégager, le fait de rester dans un métier de service, mais... En voulant être parmi les meilleurs et dans un format où on se dit on incarne une certaine excellence d'un art de vivre à la française et on l'assume totalement. Donc j'avais cette envie de faire partie de ce mouvement et c'est comme ça que ça s'est fait.
Au côté de Thierry Marx, qu'avez-vous appris, Maurice Acco?
Au côté de Thierry Marx, j'ai appris énormément de choses. Donc
partager le goût du Japon déjà, hein, ouais, on y reviendra tout à l'heure. Donc
c'est la première raison pour laquelle d'ailleurs j'ai postulé pour travailler avec lui. Et par chance, j'ai été embauché. Et ensuite, il diffuse souvent des mantras et à son contact, j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Donc, lui a des préceptes qui sont assez simples. Il y a une notion de savoir-faire, savoir-être et de savoir-faire-faire. Au début, ça peut paraître un peu nébuleux quand on arrive, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à me dire qu'est-ce qu'il veut dire réellement par là. Donc, ce savoir-faire est simple. Autant que cuisinier, on doit avoir des bases, savoir faire des techniques de base et les maîtriser parfaitement avant de pouvoir les développer derrière et d'avoir sa propre identité culinaire. Ensuite, il y a ce savoir-être qui est d'incarner quelque chose. On doit incarner une cuisine, on doit incarner aussi certains engagements par sa cuisine et autant que personne. Donc lui a des valeurs qui sont assez proches des miennes, des valeurs d'inclusion, d'intégration, mais par le travail, et aussi une valeur qui est très forte et qui, pour moi, est primordiale dans ce travail, qui est celle du respect. Donc, on respecte le produit, certes, en tant que cuisinier, mais on respecte aussi les hommes qui travaillent avec nous. Et ensuite, le savoir-faire-faire, qui est la transmission de son savoir, et cette partie où, qui est peut-être la plus dure à apprendre, parce que lui a un peu une notion aussi de businessman, et il est à plusieurs endroits en même temps, et donc, il doit savoir faire-faire à ses équipes et faire en sorte que des choses qui sortent de la cuisine soient les mêmes, qu'ils soient là ou pas là. Donc, on doit pouvoir infuser ses mantras, justement, ce qu'il a fait avec brio sur moi, et infuser aussi sa cuisine et ses techniques.
Et c'est ce que vous essayez de faire à Mosuke ou à Mosugo, selon
les moments de l'année. C'est ce que j'essaie de reproduire en tant que jeune chef et ce que j'espère pouvoir développer et vraiment faire moi aussi mon mantra, quoi.
Et c'est ce qui donne une certaine vision de la cuisine, du monde de la cuisine, un monde de la cuisine, lui aussi qui est en pleine évolution, en pleine effervescence, en plein bouleversement aussi. On parle de plus en plus des violences, plusieurs enquêtes et des témoignages en attestent. On parle de violences physiques, on parle de violences verbales, on parle de harcèlement, on parle de sexisme, on parle de racisme. Est-ce que le fait d'être noir, Maurice Sacco, a été dans votre carrière jusqu'à présent, qui est courte quand même, hein, vous n'avez que 27-28 ans, mais quand même, vous êtes passé par un certain nombre de choses, et puis Top Chef également. Est-ce qu'on vous l'a fait sentir d'une façon ou d'une autre?
J'ai envie de dire déjà, pour commencer, que tous ces changements dans le monde de la cuisine, moi j'ai envie de dire que c'est pas trop tôt. C'est des changements qui auraient dû être faits depuis très longtemps. Et je suis content que ce mouvement soit enfin engagé. Et ensuite, pour la question du racisme, moi, j'ai envie de dire par chance, j'ai pas été confronté à toutes ces choses-là dans ma carrière. On m'a jamais fait ressentir qu'être différent, en tout cas être noir, était quelque chose de péjoratif ou qui pouvait m'empêcher de progresser dans ma carrière. Et j'ai tendance plutôt à dire que le milieu de la cuisine, après, je parle pour mon cas, bien sûr que le racisme existe et ça, je le nierai jamais. Mais dans mon cas, je trouve que la cuisine est peut-être un des cercles où on a une ascension qui est double. On peut prétendre à une ascension déjà sociale, où moi, fils ouvrier, j'ai pu accéder à l'âge de 25 ans de ma carrière à un poste de cadre dans un palace. Donc la première ascension sociale. Et ensuite, une ascension qui, elle, est qui est professionnelle, on va dire, ou autre. Et on peut monter très vite. Donc le seul juge de paix, au final, c'est la compétence. On regarde pas qu'il soit blanc, asiatique, noir ou maghrébin, on se regarde vraiment la compétence. Est-ce que ce mec est bon? Est-ce que dans son travail, ce qu'il fait est ce que j'attends de lui? Et si c'est le cas, on va lui donner l'augmentation. Et c'est tout.
Et il se trouve que ce mec est bon, vous en l'occurrence. On vous a vu, donc vous avez été révélé au grand public dans Top Chef en 2020. Je vous disais, vous aviez gagné un capital de forte sympathie, donc ce qui n'est pas négligeable en dehors de la compétence et du talent. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience à Top Chef? Vous vouliez que ce soit un tremplin, ça l'a été. Au-delà de ça, Maurice Sacco?
Au-delà de ça, déjà ce capital sympathie, moi ça m'a un peu dépassé tout ce à quoi je m'attendais. Et donc c'était vraiment très fort à la sortie, vraiment au déconfinement, il y a un effet confinement aussi qui a joué. Et au déconfinement, les gens étaient vraiment hyper enthousiastes, on se croisait dans la rue et très positifs. Donc c'était vraiment une surprise.
Ça fait du bien.
Ça fait du bien, franchement, d'avoir autant de bonheur et autant de plaisir qui nous ont exposés comme ça, ça fait beaucoup de bien. Et de ce que j'ai appris à Top Chef, c'était une formidable aventure humaine. J'ai rencontré des amis là-bas. Donc des personnes comme Adrien Cachot, ou Justine Piluso, ou Jeanne Marco, on est vraiment potes, on a passé le réveillon du 31 ensemble, donc je suis rentré dans 2021 avec eux, et c'était vraiment génial. Et professionnellement, après, j'ai appris énormément de choses.
Maurice Sacco, Matteo Caranta nous a rejoint sur la scène du Théâtre de la Ville de l'Espace Cardin où nous sommes en direct pour Les Bonnes Choses. Il est 12h15 pile, c'est l'heure donc de la Madeleine. Et c'est sur cet extrait d'une série japonaise, Samouraï Gourmet, que je vous passe le micro, Matteo.
Oui, je vous disais, moi cette semaine, je me suis rendu à la librairie Yvon Lambert à Paris, où Yoko Sekiguchi signait une de ses nouvelles parutions publiées chez JBO Books, Sentir, où cette amoureuse des mots entreprend un parcours poétique en Champagne. Et puis je dis une de ses nouvelles parutions, tant elles sont nombreuses en ce début d'année 2021. On peut citer son ouvrage sur le curry japonais, aux éditions de L'Épure, ou la réédition du magnifique Nagori, chez Folio, que je tiens entre mes mains, où elle explore cette saudade japonaise, le nagori, qui renvoie à la nostalgie de la saison qui vient de nous quitter. Alors vous le voyez, Ryoko Sekiguchi vit dans un tourbillon de mots, de saisons, de cuisine, de produits, mais quand je lui ai parlé de la madeleine, elle n'a pas hésité une seconde, c'était bien l'osekihan de sa grand-mère dont elle m'a parlé.
Ma madeleine, c'est osekihan. C'est un plat japonais donc typique qu'on prépare lorsqu'on a quelque chose à fêter. Et ma grand-mère le préparait très très bien. Et même quand il n'y a pas quelque chose à fêter, c'est-à-dire que notre venue, c'était déjà une fête. Donc chaque fois qu'on allait chez mes grands-parents, là, elle préparait immanquablement cet osekihan. Alors on laisse d'abord les haricots gonfler dans l'eau pendant la nuit. Ce qui fait que souvent, quand je dormais juste à côté de la cuisine, on sentait, mais dans le silence, le sang. Comme si les haricots, en fait, comme les petits insectes bougeaient dans la nuit. Et c'est déjà, en fait, c'est une sorte de plaisir, en fait, qui s'accroît. C'est un peu comme le couscous, c'est-à-dire que c'est à la vapeur, la cuisson à la vapeur. Et donc, il y a une grande marmite où l'eau bout et sur lequel, donc, on met une sorte de couscousier, vous imaginez, et sur lequel, donc, il y a le riz mélangé des haricots rouges. Et ensuite, pendant la cuisson, on verse peu à peu cette eau de cuisson qui est rouge. Et peu à peu, donc, on voit le riz prendre cette couleur. En fait, c'est un plat, il n'y a que deux ingrédients, mais ça prend beaucoup de temps et ça prend beaucoup d'attention. Je pense que c'est pour ça que j'aime aussi, que beaucoup de Japonais aiment ce plat. Alors d'abord, en fait, vous attendez le plat arriver et on arrive avec ce grand, disons, couscousier à la japonaise. Et puis ensuite, il y a un côté spectaculaire, c'est-à-dire qu'on renverse le contenu de couscousier sur un grand plateau. Et soit, donc, c'est comme l'omelette à l'espagnol, ou bien soit comme tarte au tatin, vous voyez. Donc on regarde le riz arriver, paf! Et là, il y a une énorme vapeur qui se dégage. Et avec ça, l'odeur d'abord de haricots, qui est très doux, avec une petite astringence. Et après, court l'odeur d'une autre douceur qui est le riz. En fait, c'est la double odeur qui vous embrasse. Vous êtes dans le cocon. Et c'est comme si vous avez déjà mangé.
L'osekihan de Ryoko Sekiguchi. Alors, Maurice Sacco, le Japon, c'est donc votre passion. Passion qui est née du visionnage d'un certain nombre de mangas, hein, c'est ça? Et mangas dans lesquels on mange, on diffusait juste un tout petit extrait avant la madeleine de Matteo Caranta d'une série japonaise, la Samouraï Gourmet. Il se trouve que dans les émissions de télé japonaises, dans les séries, dans les mangas, on mange beaucoup. C'est une des raisons qui vous a donné envie de cuisiner et votre passion du Japon?
Ouais, c'est une de ces raisons. Donc, ouais, dans ces mangas, dans ces séries, ils passent leur temps à manger, en fait, au final. La nourriture est toujours présente. Et, je me suis, à force de regarder ces mangas et autres, je me suis dit, mais je veux goûter ce qu'ils mangent. Et c'est vraiment comme ça. C'était mon premier contact, on va dire, avec cette culture japonaise. Et, j'ai découvert ces plats petit à petit. Et, au fur et à mesure de que je dégustais ces plats et que j'apprenais à les aimer, bah, ma passion a grandi de plus en plus, quoi.
Le sekihan dont parlait Ryoko Sekiguchi, vous le connaissez, ce plat?
Non, je le connaissais pas, et à l'entendre en parler, maintenant, je veux le connaître.
Ça vous donne des idées, peut-être. D'ailleurs, comment naît un plat chez vous, Miura Morisako?
Alors moi, un plat est né d'abord d'une curiosité. Donc là, par exemple, ce plat, le sekihan, pique ma curiosité. Donc je me dis, qu'est-ce que c'est? D'abord, je veux le goûter. Et une fois que je vais le goûter, je vais me dire, ah tiens, ça, c'est haricot. Peut-être que si on retrouve la même chose, ça me fait penser au niébé qu'on peut retrouver en Afrique. Pourquoi pas essayer un sekihan avec des niébés? Là, par exemple, ça arrive comme ça. Et petit à petit, je compose et c'est comme ça que je construis mon plat.
Si ce plat existait un jour, vous l'appellerez le plat des bonnes choses, hein?
Ah ben,
il sera amené dans cette émission. Morisako, c'est pas seulement le Japon que vous cuisinez, donc c'est aussi il y a trois piliers en fait dans votre cuisine. Il y a le Japon, il y a la France et il y a vos origines maliennes. Le Sénégal, le Mali, elles sont nombreuses, hein, puisque votre mère a grandi à cheval entre plusieurs pays, faisait elle-même de la cuisine, disons d'Afrique de l'Ouest.
C'est ça.
Voilà. Et alors, c'est quoi ça? Ça donne quoi? Une cuisine fusion?
Surtout pas. Surtout pas. Ça donne une cuisine plurielle, mais pas fusion.
Pourquoi pas fusion?
Parce que la fusion, pour moi, force ce mariage, en fait. Dans une cuisine fusion, on retrouve forcément ces trois influences. Alors que moi, la cuisine, quand je la définis de plurielle, c'est que elle peut pencher librement, une fois, du côté du Japon, d'autres fois, sur une cuisine qui peut être d'Afrique de l'Ouest, centrale ou australe, et autrefois, elle peut être totalement française. Donc, on ne force aucun mariage, ça doit être naturel. Donc vraiment, elle est plurielle et les influences ne s'imposent pas, se font naturellement.
Dans un article du Monde qui parlait de votre cuisine, on pouvait lire « Un summum de plaisir est atteint », c'est déjà pas mal, « Un summum de plaisir est atteint avec le homard breton cuit sur un barbecue japonais qui donne à tout le plat un goût délicatement fumé. Les piments africains fermentés fouettent la bisque avec délicatesse. Le miso à la tomate apporte le sucre. » Voilà qui décrit bien le type de cuisine que vous faites, Morisako.
C'est ça, c'est super bien écrit, parce que en fait, ce plat, justement, il n'existe ni en Afrique, ni en France, ni au Japon. Et au final, la manière de le construire, c'est que je suis parti d'une idée, d'un goût, d'un parfum qu'on retrouve énormément dans la cuisine africaine, qui est ce goût fumé. Donc je voulais un plat où le fumé embaume un peu le plat sans prendre le dessus. Derrière, on retrouve un homard breton, donc des produits français, qui est travaillé avec des techniques de cuisson japonaise, donc cette grillade au barbecue japonais, et en même temps on a une bisque très concentrée, très réduite, et qui est en fait un concentré de base de cuisine française. En fait, faire une bonne bisque, on apprend à l'école hôtelière, et c'est typique de la cuisine, de la gastronomie française. Et ce miso qui vient lui apporter cette petite touche du Japon, il est pas là juste pour dire tiens c'est le Japon, c'est vraiment pour rendre un peu de rondeur dans ce plat qui peut être très puissant.
Est-ce que malgré tout, ce sont trois types de cuisine, même si justement la cuisine africaine est... On a fait une émission il n'y a pas longtemps sur les saveurs africaines qui montrait à quel point on peut pas parler d'une cuisine africaine.
Mais on parle de cuisine africaine,
des grands S à chaque fois, vraiment au pluriel. Elles sont très diverses et très riches, donc d'où la difficulté de poser cette question. Donc ces multiples cuisines se marient-elles bien ensemble, Morisako? J'en prends juste deux. La cuisine française, et c'est justement Ryoko Sekiguchi qui nous le disait lors d'une émission sur les saveurs japonaises. Elle nous disait les saveurs françaises sont, enfin la cuisine française est une cuisine qui procède d'accumulation. On ajoute. La cuisine japonaise procède à l'inverse, de la soustraction. On épure, on enlève. Donc déjà on voit les différences entre les deux, et vous rajoutez une couche avec ces cuisines africaines. D'où la difficulté d'imaginer justement comment vous faites pour imaginer ces cuisines. Mais peut-être que la question ne se pose pas pour vous. C'est naturel.
C'est ça. Pour moi, c'est totalement naturel. Et ces cuisines, je les assemble et je les fais dialoguer au final. Et j'ai tendance à dire plutôt que chaque cuisine complète un peu ce qu'on peut reprocher en point faible à l'autre cuisine. Donc, on a une cuisine française qu'on peut représenter comme très technique, justement, riche et parfois opulente, parce qu'on ajoute énormément de choses et on a tendance à être des fois dans la démonstration. Le côté justement d'épure qu'on retrouve dans la cuisine japonaise vient contrebalancer ce côté un peu opulent, donc il lui rapporte un peu plus d'élégance, de finesse. Et justement, des fois, on peut lui reprocher un côté froid et un peu clinique à la cuisine japonaise. Et la cuisine africaine, qu'est-ce qu'elle apporte du coup? Elle apporte ce soleil, cette richesse, cette puissance dans les goûts. Et justement, à la cuisine africaine, on peut lui reprocher un manque de finesse et de légèreté qui est balancée avec la cuisine japonaise. Donc on arrive au final à un triangle qui s'équilibre et chacun vient balancer les défauts de l'autre.
Alors comme j'étais très curieuse et que je suis très gourmande, Maurice Sacco, j'ai voulu goûter votre cuisine. En ce moment donc c'est chez Mosuko à Paris, dans le 14e, qu'on peut aller chercher ce que vous cuisinez. Et dans ce click and collect, j'ai trouvé hier soir un burger au filet de lieu breton, mariné et frit en chapelure panko avec une mayonnaise façon tartare et ketchup au soja, une garniture spicy tsuke mono qui est un assortiment de légumes fermentés parfumés au piment doux, et comme dessert vous proposiez un dessert à base d'hibiscus et d'agrumes sur une meringue. C'était tout juste délicieux.
Hein,
je me suis régalée. Effectivement, on ne parle pas de Maurice Sacco pour rien, il est très fort, mais dites-nous comment vous faites aujourd'hui pour adapter cette cuisine à emporter à partir de ce que vous êtes à même de créer.
Bah là, c'est vraiment tout le défi d'amener ce côté plus simple, on va dire, et garder son identité culinaire. Donc moi, je m'amuse énormément à faire de la street food parce que c'est quelque chose que j'ai mangé toute ma jeunesse et que j'apprécie autant que consommateur. Et là, du coup, dans ce burger, j'ai voulu apporter et l'identité du street food en gardant le côté riche et gourmand d'un burger, mais en apportant un certain goût que moi, je retrouve au Japon, tout en conservant la richesse et l'opulence qu'on peut trouver dans des bases françaises. Donc, c'est pour ça que je voulais une mayonnaise façon tartare qui va s'associer à un poisson qui, lui, sera pané, mais avec un mode de friture à la japonaise. Donc, vraiment inspiré des restaurants tempura. Donc, on fait une friture avec une chapelure panko qui est très fine, mais on l'enrobe aussi avec un appareil à tempura, donc ce qui se fait pas au Japon. Donc c'est soit l'un soit l'autre, et là ça permet d'avoir une friture qui est en même temps très très fine et pas grasse du tout. Donc ça vient s'associer avec ce ketchup qui vient l'huile fouettée, et le tsukemono, c'est des assortiments de légumes fermentés qu'au Japon ils font eux-mêmes chez eux. Donc c'est assez libre d'expression, donc ça me permet de rajouter du piment et d'amener ce côté fumé que moi j'adore encore une fois dans la cuisine africaine, et ramener ce tsukemono très japonais avec des parfums d'ailleurs. Et pour le dessert, bah utiliser l'hibiscus, pour moi c'est vraiment un peu un de mes éléments un peu totem dans ma cuisine. Ça me permet de tout le temps revenir sur ces goûts que j'ai appréciés étant jeune et que j'apprécie toujours, et d'associer une petite meringue française. Bon bah
c'est après là,
juste
tout
un
va
classique
bien.
Quoi. Et là ça. Tout va bien.
Vous nous avez fait un cadeau, enfin vous avez plutôt fait un cadeau à nos auditeurs, à nos auditrices, Maurice Sacco, puisque vous nous avez donné une de vos recettes. On vous a demandé une recette pas trop compliquée à faire chez soi, qu'on a mise donc sur notre site, hein, les bonnes choses sur notre site franceculture.fr. On arrive juste à la fin de cette émission. Une dernière petite question, vous parliez de totem. Le héron est votre animal totem, en un mot, pour quelle raison?
Bah, le héron est l'animal totem parce que c'est le seul animal qu'on retrouve sur les trois continents, et sur chacun de ces continents il a une place particulière dans la culture. Donc on le retrouve aussi bien en France qu'au Japon qu'en Afrique de l'Ouest, et nous on a tendance à dire qu'un client dans notre restaurant vit un peu comme ce héron qui migrerait de l'Afrique à la France et au Japon, et qui se nourrit sur chaque territoire de ce qu'il y trouve. Et c'est un peu l'esprit de Mosuke.
Mosuke qui vient, c'est un mot valise qui vient à la fois de votre prénom et du prénom d'un samouraï japonais.
Et surtout africain. Donc Yasuke. Donc c'est l'histoire d'un esclave qui s'est retrouvé déporté par la force des choses au Japon, où il a rencontré un seigneur féodal là-bas, et il a réussi à monter toutes les strates jusqu'au rang de samouraï, et ce qui a fait de lui le premier samouraï étranger et surtout le seul samouraï noir qui existait au Japon.
Merci beaucoup, Maurice Sacco, d'être
Merci.
Venu ce midi, et travaillez bien la recette inspirée du plat japonais de Ryoko Sekiguchi.
Carrément.
On viendra la goûter si vous avez créé quelque chose. Merci beaucoup.
Merci.
Les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France, avec l'équipe Roxane Poulain, Stéphanie Villeneuve, Mathéo Caranta, Jean-Christophe Francis et les techniciens du jour, les techniciens et les techniciennes, Andreas Jaffré, Laurent César, Christophe Michou, Jean-François Georges, sous la houlette de Dominique Allard et de Francesca Fossati. Merci aussi aux équipes du Théâtre de la Ville et à son directeur Emmanuel de Marcimota. Et bien toutes ces personnes souhaitent un excellent dimanche à l'écoute de France Culture, à nos auditeurs et à nos auditrices. Dans un instant, ça sera le journal, suivi de Signes des temps par Marc Weitzman.